Vayeshev, donc. Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv. Beretz Kenaan. Yaakov a résidé, il s'est installé dans le pays où avait habité son père et dans le pays de Canaan. Et ensuite, on commence tout de suite les toldot de Yaakov par Yosef et avec et ensuite on s'embarque sur l'affaire de Yosef. Alors, les Mfarshim disent que la paracha de Vayeshev, c'est la paracha du Mashiach. Puisqu'il y a le fondement des deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et ben David, c'est le Ben Yuda, c'est-à-dire. Et ça commence par la racine du Mashiach Ben Yosef. Donc c'est Yosef lui-même. Et ensuite vient la paracha de Yehuda avec Peretz, qui est l'ancêtre du Mashiach Ben David. Rashi dit Vayeshev Yaakov, et Rashi dit Achar shekatav lecha Yishuvei Esav v'toldotav der Ktsara, après nous avoir écrit ce qui concerne les résidences, etc., d'Esav et ses descendants, etc., de façon concise. Piresh lecha yishuvei Yaakov v'toldotav bederech aruka kol gilgulei sibatam. Au contraire, maintenant, ce que la Torah va décrire de Yaakov, c'est avec toutes les causes et les conséquences, etc., le déroulé complet. Parce que Shem Hashuvim lifnei Amakom, le harich ba'em, puisque pour Hachem, ce qui arrive à Yaakov est la chose plus importante que ce qui arrive à Esav. Prenatamotse ben Sarah dorot chez Adam vad Noach. Et Rashi, il veut nous expliquer, illustrer la chose. Il dit, quand tu regardes les 10 générations d'Adam à Noach, on te dit simplement Ploni, Olid, Ploni, machin, hein, mis au monde, machin. Et par contre, quand on arrive à Noach, alors la paracha, le texte s'étend sur Noach. Machal le margalit shenafla benachol. Ça ressemble à une perle qui tombe au milieu du sable. Adam et mashmesh bachol. On est obligé de bouger beaucoup de sable. Jusqu'à ce qu'il retrouve la perle. Nous, on aurait pensé que la raison pour laquelle la Torah nous raconte l'histoire du Maboul, c'est pour nous dire qu'il y avait un Maboul. Et bon, et qui s'est trouvé Noach. Il se trouve que dans le Maboul, il y avait Noach. Les Chazal disent que c'est le contraire. Noach, qui est-tu à ce moment-là, un tzaddik qui s'appelle Noach? C'était ça la chose importante. Tout le reste, c'est secondaire. Davar acher, dit Rashi, Yaakov ra'a kol ha'alufim ha'ktuvim lemala. Yaakov Avinu, il a vu tous les chefs de tribu d'Esav. Tama ve'amar, mi yachol lichvosh et kulam. Il a vu tout ça, hein? Il s'est demandé, mais qui va pouvoir contenir, conquérir tout cela? Alors c'est marqué, Ele toldot Yaakov, Yosef. Alors on dit les engendrements de Yaakov, un seul, Yosef. Mais le pasouk dit, Vaya bet Yaakov esh, bet Yosef lehava. Le pasouk dit, la maison de Yaakov sera du feu, Yosef, la maison de Yosef sera une flamme, ou Bet Esav sera le cache, et Bet Esav, ce sera la paille. Nitzutz yotze Yosef, shemechale vesoref et kulam. Et toute cette abondance, toute cette multitude d'Esav, une étincelle de Yosef va le détruire complètement. Et la Kabbana, c'est bien sûr au temps messianique, que l'étincelle qui va sortir de Yosef Machnia au Motaolam, qu'elle va faire plier, vaincre les Motaolam, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer au temps messianique à ce sujet-là? Aliede Kocham Aruchani chez l'Israël, la force spirituelle de Bnei Israël. C'est comme ça qu'ils vont gagner. Chez Rochmat, parce que la sagesse des Umot HaOlam, elle va devenir complètement dépendante d'Israël. La Hashpa, cette idée qu'une étincelle va brûler tout, c'est l'idée que... On parle pas, c'est pas l'essentiel du tout, on ne parle pas ici de la destruction des Esav en tant que tel, mais les rendre, eux, dépendants d'Israël. C'est Nitzot, ça veut dire, il y a une Hashpa'a, il va y avoir une influence de cette, comment une étincelle peut venir à bout de cette multitude. C'est la force spirituelle qui aura alors le Kuzari. Il dit que les Goïm, leur Chochma, ils l'ont apprise des Bnei Israël. Et quand dans le clan Israël, une qualité s'éveille, peu après on la trouve aussi chez les Umot HaOlam. Exemple, les grands philosophes grecs, Socrate, Aristote, ils sont après la période de la Nevoa, l'Israël. Cette période de la philosophie, c'est l'ombre de la Nevoa, si on peut parler comme ça. C'est l'ombre portée de la Nevoa. Me Korah Ayab Israël, la Nevoa, elle était dans le clan d'Israël. Rel Kolan Hatzrut, évidemment, Netzeret Beshitato, chez la Notzri. Chez Rabbi Yosha ben Prachia, Zarak mi Bet Hamidrash. Rabbi Yosha ben Prachia l'a viré, celui que les goyim appelle le Nazaréen, donc, il l'a viré du Bet Hamidrash. Mais Shitato, c'est un tsel chez le Macherab et Bet Midrasho chez Yosha ben Prachia. C'est l'ombre de ce qu'il a vu dans le Bet Hamidrash de Rabbi Yosha ben Prachia. Ensuite déformé, bien sûr. Et Gamba Toufa, Acharona, Rabbi Israël Salanter, il a dévoilé qu'il y a ces kochot, keim, c'est-à-dire tout le subconscient, tout l'inconscient. Et bon, peu de temps après, il y a un Freud qui aussi développe cette idée-là. On ne sait pas exactement comment ça passe. C'est pas qu'un est allé à l'école de l'autre, s'asseoir dans les bancs de l'autre. Mais c'est connu en science aussi, on sait très bien qu'une fois qu'une idée existe quelque part, elle existe ailleurs aussi. Comme si on s'est aperçu, par exemple, pendant la guerre, qu'en Union soviétique et en Amérique, ils ont découvert des... Je parle de ce que je sais, c'est des théorèmes mathématiques en même temps. Mais ils n'avaient aucune communication possible. Pas de communication à ce moment-là. Mais les matheux des deux côtés ont travaillé les mêmes sujets et ils ont trouvé des théorèmes qui ne sont pas mot à mot la même chose, mais des théorèmes analogues ou des fois très semblables ou quasiment identiques. Parce que quand l'idée est là, dans l'air, on peut parler comme ça, alors elle est prenable beaucoup plus facilement. Une fois que quelqu'un l'a mise dans le monde, elle est prenable. Le Sefer Bereshit, c'est le Sefer des Shorashim, des Yosolot de la Bria, des racines et des fondements. Donc, lorsque dans le clan d'Israël, il y a un dévoilement de Torah, mais de valeurs, etc., alors, et de Kdusha, les Goïm en ont une certaine idée, il y a une, ce qu'ils lui appellent une ombre, mais quelque chose reste chez eux aussi accroché. Donc la fameuse étincelle qui vient de Yosef, c'est une hashpa, c'est une doucha qui se dévoile dans le clan d'Israël et qui va avoir un impact chez les Umot HaOlam. Quelqu'un peut très bien être dans son coin à étudier et on n'est même pas conscient ni de sa Kdusha, ni de sa Chochma, etc. Et malgré tout, cette force, Kdusha, elle a un impact. Comme dans l'énergie matérielle, il y a des règles que... Bon, il y a Lavoisier qui dit que rien ne se perd. Des fois, on a l'impression que certaines choses se perdent, personne ne le sait, etc. Non, ça ne se perd pas. Ça fait son chemin. Ça laisse une trace. Elle est Toldot Yaakov, Yosef, ben Shvaesre Shana, Aya Roe Techav Batson. Rashi dit. Elle est Toldot Yaakov, Siba Rishona, Yosef Ben Shvaesre Shana. Première cause, il avait 17 ans. Al Yede Ze, Nidgalgelu, Veyardou le Mitzrayim. Et à cause de ça, c'est mis en marche les choses sont mises en marche, ça a commencé à rouler, et on s'est retrouvé en Égypte. Dans la Torah, il y a des choses qui, semble-t-il, ont l'air extraordinaires. Ici, on nous dit que la raison du Galout en Mitzrayim, c'est Yosef avait 17 ans. Mais qui va accepter ça comme cause? C'est inacceptable comme cause. De même que Chazal disent qu'on a Kamsa ou Bar Kamsa, Rav Yerushalayim. Yerushalayim a été détruite à cause de Kamsa et Bar Kamsa. Ou à Targonta et Targonta, Tour Malka. Comment on peut écrire des choses pareilles? Aujourd'hui, on expliquerait les choses en disant que bon, il y a des raisons internationales, relations internationales, des problèmes économiques, etc. Est-ce que un enfant de 17 ans fait l'histoire? Ici, là, Torah a l'air de dire que oui. Torah dit oui, c'est lui. En passant, on peut voir ce que... Je vous dis ici ce que dit Ravolbé, c'est ce qu'un enfant de 17 ans peut faire. Probablement, dans ces générations, avoir 17 ans, c'était peut-être plus âgé que 17 ans aujourd'hui, disons. Malgré tout, même alors, 17 ans, c'était encore bien jeune. Donc il est effectivement responsable, un peu responsable de ses actions. Il a encore tout l'entrain, tout le feu sacré quoi, de la jeunesse. Aujourd'hui, à 17 ans, c'est l'âge où on entre dans la Yeshiva Gdola. Rashi ramène Midrash Agada, Doresh, Tala Katuv Toldot Yaakov Bi Yosef. Le verset dit que les Toldot de Yaakov dépendent de Yosef. Mipne Kamadvarim, pour plusieurs raisons. Achat, Shekolat Moshe Yaakov, Lo Avad Etzel Lavan, Ela Berachel. Veshiaziz, Zivi Kunin Shel Yosef Domelo. Domelo, je ne sais pas. Une des raisons, c'est que, en fait, tout le travail de Yaakov chez Lavan, c'était pour Rachel. Et Yosef, c'est le fils de Rachel qui lui ressemble. Mais on dit que la beauté de Yaakov, elle avait quelque chose à voir avec la beauté d'Adam Harishon. C'est-à-dire la forme de Yaakov ressemble à celle d'Adam Harishon. C'est-à-dire Tselem Elokim. Donc quand on dit que Yosef ressemblait en fait à Yaakov, mais il y avait probablement des choses qui lui rappelaient Rachel, c'est quelque chose d'énorme qu'on est en train de dire là. Ça veut dire donc que d'une certaine manière, Yosef HaTzadik est la continuation de Yaakov Avinu et donc des deux autres Avot. Donc on voit que quand extérieurement il y a des ressemblances, il y en a également dans l'intériorité. Toutes les rides, en quelque sorte, dans le visage d'un homme, sont significatives. Elles reflètent sa personnalité. Comme on voit chez Lot et Abraham. Là on dit que l'éclat de Yosef ressemble à celui de Yaakov. Quelque part, ça veut dire que son niveau était comparable à celui de Yaakov. Vous voyez, d'ailleurs, par la suite, on voit bien que Yaakov lui-même a considéré les enfants de Yosef comme ses enfants à lui. Il les a mis à la même hauteur. Il a donné aux enfants de Yosef le statut de Shvatim, c'est-à-dire le même statut que ses propres enfants. Omnam, toutefois, Yaakov Avinu, il appartient au Avot, et Yosef n'appartient pas au Avot. Parce qu'il y a une halakha que En Korin Avot et la Lishlosha. Il n'y en a que trois qui sont appelés Avot. Avram, il représente la Mida de Chesed, Yitzhak celle de la Gvura, et Yaakov la Mida Taemet. Mais il y a encore d'autres Midot. Après le Hémet, il y a la Gdusha. Yosef, il représente la Mida de Gdusha. Donc, sur ce plan, de ce point de vue-là, il est le continuateur de Yaakov. Mais Yosef, il a un statut intermédiaire. Il n'est pas Av, mais il n'est pas comme les autres Shvatim, puisque ce sont ses enfants qui sont Shvatim. C'est aussi pour ça que Yaakov aime Yosef plus que ses autres enfants, parce que c'est lui le véritable héritier au sens du continuateur. Il y a une ligne directe, en fait, entre Yaakov et Yosef. On est encore plus Doresh, רש"י. וישב, ביקש יעקב לשב בשלווה. יעקב הסוויתה רסטה, דיזון, אמפה. וקפץ עליו רוגזו של יוסף. Le problème de Yosef lui est tombé dessus. Les tzadikim, ils veulent en fait être en paix, ils veulent être tranquilles. Alors Akadosh Baruch Hu dit, « Lo dayan la tzadikim, mashe metukan laem l'olam haba » Est-ce que ce qu'il aurait préparé pour dans l'olam haba, ça ne leur suffit pas? Ils veulent dans l'olam hazeh aussi être beshalva. Ça ne veut évidemment pas dire que Yaakov Avinu, ce qu'il souhaitait, c'est un transat et des cigares et d'autres pieds en éventail. On sait que quand on veut étudier, on a besoin de calme, on a besoin de clarté, cette clarté, elle vient effectivement quand on n'est pas dérangé. Lui, il voulait étudier jour et nuit sans être dérangé.
C'est pas un peu paradoxal cette histoire de Shabbat, parce que on sait que le Rambam, quand il a écrit le Chazaka, pour lui, c'était une grosse guerre.
Oui, c'est sûr que tout ça, ça a été écrit alors qu'on était loin de toute Shalva.
Ouais. Je sais pas très bien.
Mais normalement, c'est marqué que Shmata Ba'et Siluta. Que pour étudier sérieusement, on a besoin de Siluta, on a besoin de clarté. La clarté, ça veut dire ne pas être dérangé par quoi que ce soit, d'être complètement dans son affaire. Là, c'est ça la Shalva qu'il voulait. À la limite, si à l'extérieur. Lui, il était certainement capable, Yaakov Avinu, de s'abstraire complètement de l'environnement, mais lui-même, il va être Beshalva. Ce qu'il a touché d'ailleurs, c'est Rougzo chez Yosef, c'est pas en tant que phénomène, c'est pas qu'il y avait des guerres alentour. C'est eu quelque chose dans sa propre famille où effectivement ça a mal tourné. Machma Merashi. Que c'est le sort de tous les tzadikim de vouloir cette shalva. Et bien sûr, ils le veulent tous, le Shem Shemaim, mais comme Rambam lui-même le dit, « Itavu kol Israël neviyem v'chachmeyem yemot amelech ha-moshiach » Et tous les Bnei Israël, les neviyim, les chachamim, ont toujours, ils désirent arriver au temps messianique. Pourquoi ?« Kidesh yanuchu mimalchut arshaa » שאינה מנחת להן לישראל לעסוק בתורה ובמצוות כהוגן. Pour être débarrassé de la malchut arisha, là en l'occurrence c'était du pouvoir qu'il est en paix, que ce soit Rome, que ce soit les Perses, etc., qu'il ne laisse pas les bénis Israël s'occuper de Torah et de mitzvot comme il le faut. Et par conséquent, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'Hachem leur veut. C'est tout à fait légitime. Et le Rambam dit, ben, c'est ça qu'on veut, tout le monde veut ça. Or, on voit dans ce que Hachem dit, c'est que la shalva, c'est quelque chose qui appartient à Olam Haba. Ce n'est pas de ce monde, la shalva. Dans ce monde-là, il n'y a pas de shalva. Il semble que Yaakov ait eu les difficultés parmi les plus difficiles, les plus grandes que les autres avotes. Il avait Esav, il avait Lavan, de nouveau Esav, puis après l'histoire de Yosef, ensuite il a dû descendre en Égypte. Les autres avotes n'avaient pas, semble-t-il, autant de difficultés. Yaakov, lui, oui. Shacharit, on dit, mais Avatrash, Avta Oto, et Simchatrash, Samarta Bo, Karata et Shmo Israël Vishurun. Par l'amour que tu lui as donné et la joie que tu as eue avec lui, Hachem donc, tu as appelé, tu lui as donné son nom, Israël et Yeshurun. On l'appelle à Bachur Shebe Avot, celui l'élu, le choisi parmi les Avot. Lui, il a eu une vie très difficile. Parce que En Shalva Ba'olam Hazeh. Le Rabbi Rucham Lebovitch, il définissait ça comme ça, avec un machal. Il disait, dans une usine, il n'y a pas de transat, il n'y a pas de fauteuil. Toute la hatzlacha de l'homme, ba'olam hazeh, ira qu'à l'aide avoda ve'amida benisyonot. Toute la réussite de l'homme, elle est dans son travail et dans le fait de résister aux épreuves. Volbe raconte que un mashgiach, un surveillant d'une yeshiva ktana, lui racontait que quand il a demandé à un élève d'amener à manger après mincha au magid shiur, à celui qui a donné le shiur, quoi, qui est là encore, qui va continuer il a donné le shiur, on y va ensuite écouter et aider les gens. On lui a demandé de lui amener à manger. Alors l'élève lui a répondu qu'il n'avait pas le temps, qu'il doit courir pour être. On a demandé à un autre élève d'être le gabaye, c'est-à-dire de tenir les comptes, par exemple de qui on appelle à la Torah pour être sûr que tout le monde est appelé, etc. Il a dit, je n'ai pas envie, ça me dérange dans mon limoud. Nous, notre présentation, c'est qu'un bachour, il doit pouvoir s'asseoir et étudier Bechaket, sans qu'on soit dérangé. Il n'a rien besoin de faire. Mais tout le monde va être autour de lui, tout le monde va s'occuper de lui, tout le monde va lui fournir ce dont il a besoin. Et que c'est comme ça, et uniquement comme ça, qu'il arrivera à étudier. Mais ça, c'est complètement faux. Parce que ça veut dire que tu n'étudies que quand la Gemara est ouverte. Mais dès qu'on a fermé la Gemara, pour aller apporter à manger ou pour s'occuper de ceci ou de cela, alors on n'étudie plus. Donc ça veut dire, on est là, vide. Donc, on n'a pas d'idée de ce qui s'appelle continuer de penser, de réfléchir dans le Limoud, hors du Beit HaMidrash. Il raconte ici, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, que le Rav de Brisk, quand il était plus jeune, il étudiait et son père, Ephraim, il l'appelle et lui dit « Descends-moi s'il te plaît ce Sefer là-haut. » Et donc son fils lui descend le Sefer, il le lui amène et son père lui demande « À quoi tu as pensé pendant que tu descendais le Sefer et que tu me l'as amené ?» Alors le Rav de Brisk a dit « J'ai réfléchi à un certain Rambam. » Alors, son père l'a dit, écoute, j'aurais très bien pu y aller le chercher moi-même, le Sefer. Mais je voulais t'éduquer qu'on doit sans arrêt, ça s'appelle l'archov belimoud, quand c'est en lernen, parce que c'est comme ça qu'on devient grand. Parce que si on ne pense à son étude que quand on est devant une Gemara ou devant un Sefer ouvert, ça n'ira pas très loin. Le fils de Brisk a raconté que quand il fuyait pendant la Deuxième Guerre, Ils étaient dans le train. Au milieu de leur voyage, il y a eu une bombe. Et ils ont dû sauter du train. Et ils ont dû se coucher dans les champs. Et il voyait que son père était tendu. Alors il a demandé à son père, mais pourquoi tu es tendu? Il a pensé que son père était tendu à cause de ce qu'il y avait. Son père lui a dit, il y a un rambam difficile dans ta roche, je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas comment répondre. Demandé à Rabbi Robert Maïbovitch, on lui a demandé au Shivet Kamenitz, qui était aussi un élève de Reprim. Il a voyagé en Amérique et pour ramasser de l'argent pour la Yeshiva, évidemment. Quand il est revenu, on lui a demandé, nous, qu'est-ce que tu dis de l'Amérique? Elle a dit, c'est extraordinaire, c'est un Eretz Kedosha, c'est un pays saint. Toutes les rues sont propres et on peut penser à réfléchir en lernen dans la rue. Parce qu'à Kamenitz, les rues étaient complètement sales, boueuses, etc. Et il y avait pas tout à l'égout, etc. Donc c'était plein de saleté. On n'avait pas le droit, plein d'endroits où on ne pouvait même pas réfléchir, on n'a pas le droit de penser à des pensées de Limoud. Donc pour lui, tout ce qu'il a vu de l'Amérique, c'est qu'on pouvait continuer dans la rue, on pouvait continuer à penser en lernen. Le problème, c'est que si on ne s'habitue pas à ça, quand quelqu'un est éduqué, il grandit, et qu'on lui a enlevé toutes les... On lui a tout enlevé, quoi. Il n'a aucune... Il n'a aucune charge. Le problème, c'est qu'est-ce qui va advenir de son limoud? Puisque quand il va se marier, en tout cas, il va avoir des charges. Et il ne sera pas du tout habitué. Ou bien si un jour il est rav d'une communauté, Rosh Yeshiva, il sera occupé par toutes sortes de choses. En Bichlal, il ne l'aimera pas. Donc il faut s'habituer à étudier dans toutes les situations. Y compris quand la Gemara est fermée. Le Char, un des grands commentateurs de Shulchan Aruch, il écrit à un certain endroit, il écrit, voilà... Le Sefer, je ne l'ai pas sous la main, le Sefer en question. Alors il le cite comme ça de mémoire. Vraisemblablement, lui, il vivait au moment des pogroms de Khmelnytsky. C'était le moment où les Cosaques ont massacré les Juifs. Et donc les Juifs, ils fuyaient sans arrêt. Donc probablement que le Char, il fuyait. Et le soir, quand il arrivait à un endroit où c'était un peu plus calme... Il a continué de... Il a rédigé son commentaire de Shulchan Aruch, parce que le Char, il est niftar très 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 jeune. Et on n'arrive même pas à comprendre comment il a pu écrire ce commentaire qu'il a écrit sur le Shulchan Aruch. La profondeur qu'il y a dans le Char, c'est... Sifte Cohen, c'est incroyable. Donc probablement qu'il a écrit aussi au moment où il fuyait. Mais Akadosh Baruch Hu, aux tzadikim, il leur envoie une épreuve après l'autre. Pour leur donner du srar, pour leur avoda, l'avoda qu'ils sont capables de faire quand ils sont occupés, quand ils sont dérangés. Et pas l'avoda qu'ils ne peuvent faire que quand Ils sont archi tranquilles. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, lo dayan la tzadikim, vashem etukan lahem leolam haba. Dafka beolam haba, on peut arriver à des asagot, à accéder à certaines choses à partir de la shalva. Mais pas ici. Ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je continue un peu le rashi. Ve'u na'ar et bene bilha, ve'et bene zilpa, neshe aviv, ve'yef et dibatam ra'a el avihem. Donc là, il est... C'est un jeune homme, il est avec les fils des servantes, c'est pas Bila et Zilpa. Et on sait que les fils de Léa se moquaient d'eux et les méprisaient. Et lui, Yosef, c'est un petit rapporteur, il a rapporté à son père ce que faisaient les fils de Léa aux fils des servantes. Rachid dit, « Ve'u na'ar, shaya osema ase na'arut. » Il se comportait comme un jeune homme, comme un na'ar, comme un jeune homme. C'est-à-dire, alors je ne sais pas pourquoi les jeunes hommes à ce moment-là ils faisaient ça, mais ils étaient sans arrêt en train de s'occuper, « metaken besaharo », s'occuper de ses cheveux sans arrêt, « memashmesh be'enav, kede sheye nirei yafe. » Et il touchait sans arrêt ses yeux, je ne pensais pas, essayer de les élargir, je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire pour les rendre plus beaux. Donc il a 17 ans, il est déjà le tzaddik de la génération. Il n'était sûrement pas moins, dit le Ravolbe, moins que le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, quand il avait 12 ans, il savait toute la Torah quasiment. Donc Yosef, quand on dit qu'il s'occupait de ses cheveux et de ses yeux, il faut dire que c'était par un ben Torah, quelqu'un qui lit la Torah, il faut qu'il présente bien. Il a sûrement fait les choses, le Shem Shamaim. On voit très bien que Chazal rapporte que Hillel, il publiait « Je vais prendre mon bain », comme si ça intéressait les gens, parce qu'il disait « Il y a une mitzvah l'itrachetz b'chol yom l'ichbon Hashem itbarach ». Il y a une mitzvah de se laver chaque jour en l'honneur d'Hashem. Lui, alors, il faut dire que, bon, il pouvait se laver tous les jours, mais il était en guenille, il n'avait pas un sou pour s'habiller. Mais c'est un Chilul Hashem. Il ne pouvait rien faire d'autre. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'est se laver. Mais acheter des vêtements, il ne pouvait pas, il n'avait pas qu'à l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on veut de Yosef ? Ça vient de Adikduk Shachem Medagdekim Atsadikim Kikuta Sahara. C'est connu, Chazal disent que Akadosh Baruch Hu, il juge les tzadikim à l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que quand il s'occupait de ses cheveux, c'était un tout petit peu trop. C'est sûr que c'est un Hidur Mitzvah, disons. De présenter bien. Mais, et certainement qu'aux yeux de l'observateur, on ne voyait pas que Yosef en faisait trop. Mais la Torah, elle critique l'homme, comme dans le Bet Din, comme on sera jugé au moment du Din Agadol Be'olam Haba. Shalma se kaze, shikula o l'shem shamaim. Un acte pareil qui est entièrement le Shem Shamaim, néanmoins, il y a quelque chose de peut-être d'inconscient. La Torah elle lui donne le titre Nar. Je jeune homme, mais c'est un peu, c'est dégradant, quoi. C'est un dikdouk, c'est-à-dire c'est, on regarde les choses de tellement près, dak dak, ça veut dire dikdouk, ça veut dire très 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 fin.
Ça revient, c'est après. Hmm? Une fois que Yosef est en Égypte, mais aussi, de nouveau, il parle qu'il est en train de se préparer quand son père fait la veille.
Ah oui, c'est ça. Bon, mais là-bas, il était vice-roi, donc il avait des obligations. Rachid dit sur Et Benébila, le fils Ayou Echav Mevazinotan. Les frères, donc les fils de Léa, méprisaient les. Ils leur faisaient honte aux fils de Bila et Zilpa. Vehu et Yosef, au contraire, Mekarvan, lui, il les rapprochait. Et malgré tout, bien qu'il les ait rapprochés, malgré tout, les fils d'Avant le haïssaient également. Autant que les fils de Léa. Parce que sur eux aussi, ils disaient ce qu'ils faisaient. Ce qui ne convenait pas. Et d'après lui, était de l'ordre de Issou. Dibatam ra'a. Kol ra'a shaya roe be'echav bne Léa aya magid le'aviv. Il racontait tout ce qu'il voyait et qu'il interprétait négativement. Il le disait à son père. Shayu ochlin ever minachai. Il mangeait ever minachai, c'est-à-dire il mangeait de la viande qui avait été prélevée sur un animal avant la shrita. Il méprisait les fils des Shfachot, il les appelait avadim. Il les soupçonnait d'arayot. Et finalement, Yosef, sur ces trois accusations, il va être frappé. Sur Ever Minachai, il va être frappé parce que Vaishkhetu Seir Izim, Mimkhirato, Veloach Alouchai. Il est frappé parce que, au moment où ils l'ont vendu, il a clairement vu qu'ils avaient fait la Shrita pour manger. Ils ont mangé après l'avoir vendu. Et il a vu de ses propres yeux qu'il faisait très attention et qu'ils ont fait la shrita. À ce moment-là, il a compris qu'il s'était trompé, qu'il n'avait pas vu qu'il faisait la shrita, peut-être très rapidement, très. Sur Diba chez Siper Aleem, chez Corinne Lachem Avadim. Il a raconté qu'ils appelaient leur frère Avadim. Il a été vendu comme Eved, comme esclave. Et c'est les Arayot qu'il a raconté sur eux. Il a eu l'histoire de Madame Potiphar. La question qu'on peut poser, c'est d'où est-ce que les Chachamim savent que c'est ça qu'il a raconté à son père? C'est marqué dans la Torah. C'est marqué dit Batam Ra'a et Laviem. Et d'où il sait, d'où les Chachamim savent dire ce qu'il a raconté? Mais ils le savent justement de ce qui est arrivé à Yosef après coup. On comprend que ce qui lui arrive là, ce n'est pas gratuit. Et comme c'est toujours Mida Keneged Mida, c'est sur une Avera qu'il a faite. Et des Onshim, on remonte aux raisons de ces Onshim. Évidemment, ce que. On va dire, on a l'impression, comme ça, quand on le lit, tel que je l'ai dit jusqu'à présent, on a l'impression que, bon, alors c'était un. Il était Moti Shemra sur ses frères. C'est-à-dire, il disait du mal d'eux, un mal d'eux. Alors, le Maharal explique. En vérité, il y avait des disputes à l'acha entre Yosef et ses frères. Parce que. Sur chaque chose, Yosef, il avait des opinions à lui et il avait des chumrot. D'après ses chumrot, en fonction de ses chumrot à lui, il racontait, il interprétait ce que faisaient ses frères. Mais eux, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ne faisaient pas ses chumrot à lui. Quand il raconte, il mangeait un verre minachai. Quand on fait la shrita, normalement on attend que le nefesh de la Béhéma soit parti. Mais il y a une opinion qui pense que mimakom ashrita yocholim lakachat basar af kshenafsho, quand il y a encore tout le sang, on a le droit, mais il y a une shrita qui dit on peut prendre tout de suite la viande. Et c'est ce que les frères faisaient. Yosef, lui, il était Mahmir. Donc il raconte que c'est Eva Menachai. Mais c'était Eva Menachai d'après sa shita à lui, mais pas la leur. Et c'est pas lui qui décide. Rachoudim à Rayot. Il a vu qu'il parlait avec les filles du pays. Donc il a pensé que s'il parle avec ses femmes, vraisemblablement, il y a autre chose. Mais ce soupçon-là, c'était un soupçon qui n'existe que chez Yosef. C'est-à-dire, un soupçon au sens de... Le fait de les avoir soupçonnés dans des choses pareilles, c'est que Yosef. Que chez Yosef, que ça. Ça, c'est Midat Ayosod, c'est-à-dire la Gdusha. C'est la Mida de Sod, la sixième, c'est Yosod, Tzadik, Yosod Olam, c'est Yosef. C'est la Gdusha. C'est ces points-là qui sont des points extrêmement fins. C'est des choses mauvaises, c'est des fautes. Mais par rapport au Achir, au frère, qui n'était pas à sa madrega à lui, il n'y avait rien de mal. Ça entre dans ce que le pasouk de Tehilim dit, Ohave Hashem Sinura. Shekdusha Ena Yechola Lisbol Ra. Ohave Hashem, celui qui a la Kdusha, celui qui aime Hashem, il a de la haine pour le mal. Et lui, il voit, pour lui, c'était le mal. Parce que ça, dans ses chumrot à lui, c'était interdit. La question qui se pose, c'est pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a été puni? Alors, la réponse, c'est parce qu'il a regardé avec toute son... avec toute sa flamme, etc., tout son entrain, etc., du haut de ses 17 ans. Et il était un nar à ce moment-là. Ce regard, c'est un regard de nar. Parce que toute la critique, sa critique à lui, contre ses frères, elle venait de son état de nar. C'est la même chose. C'est en plus de s'occuper de ses cheveux, de s'occuper de ses yeux, etc. Et le fait qu'il a voulu rapprocher les fils de Bila, tout ça, c'est de l'anaroute, quoi. Parce qu'il s'est posé comme s'il était leur supérieur. Moi, je vais vous rapprocher. Ils sont tous plus âgés que lui. C'est ce que dit le Maharal, en fait. Mais le Shlo, à Kadosh, il dit un peu différemment. Il dit, Avraham Avinu, on dit qu'Avraham Avinu a écrit le Sefer Yetzira, et qu'il l'a confié à Yitzhak Avinu et Yitzhak à Yaakov. Et Yaakov l'a donné à ses fils. Comme on voit dans l'Agmara, Amoraïm, chez Barou Eglat Ilta, Becholer Rav Shabbat, on voit qu'il y a des Amoraïm qui se fabriquaient un veau gras tous les Rav Shabbat, en prenant la recette qu'il y a dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira qui parle de magie pratique, de Kabbalah pratique, pardon, et qui explique comment on fait ça. Shvatim Baru Egel Alide Sefer Yetzira. Le Shlo, il veut dire que les fils, ils avaient créé un Egel d'après le Sefer Yetzira. Et ils l'ont mangé vivant. Parce que ce Egel-là, il n'a pas besoin de Shrita. Egel Anivra Bofanze Lotzer Shrita. Ils ont aussi fabriqué des servantes avec le Sefer Yetzirah. Et lui, Yosef, il pensait que c'était des servantes réelles, et, enfin normales, standard. Et il a vu qu'ils avaient des rapports avec elles. Et... Mais les Bnei Shfachot, ils n'étaient pas dans le coup. Les Bnei Rachel, Bnei Léa, ils avaient le Sefer, et ils n'ont pas dit aux autres. Et donc, Yosef, il a pensé que c'était un zilzoul, que c'était du mépris. Donc, ce qu'il a raconté à son père, c'était vrai. C'était comme ça que ça apparaissait. Qu'ils ont fait ces averot. Mais en vérité, ils n'ont pas fait de faute. Et la ta'ana contre lui, c'est qu'il aurait dû juger le kavzehout. C'est difficile, hein, de penser qu'il faut être difficile le Kavzuchut. D'après le Shla Kadosh, il voit ses frères avoir des rapports avec les Shvachot, manger un veau gras sans faire la Shrita. Comment tu fais pour être dans le Kavzuchut ici? En tout cas, on lui reproche de ne pas avoir été dans le Kavzuchut. Israël ahav et Yosef mikol banav. Israël a, Ravinu, il a aimé Yosef plus que ses autres fils. Ki ben zekunim ulo, parce qu'on dit c'était le fils de sa vieillesse, ou celui qui l'accompagnait de sa vieillesse. Va salo ktonet pasim, et il lui a fait cette fameuse tunique rayée. Rashi ramène Ben Zekunim, il ramène que Unklus a traduit Bar Hakim Ulo. Il était très intelligent. Kolma Shelamad, Mishem Ve'ever Masarlo. Donc, il avait transmis, Yaakov a transmis à Yosef tout ce qu'il avait appris dans la yeshiva de Shem Ever. Qu'est-ce qu'on apprenait là-bas? Rabbi, il dit que ce qu'on est là-bas, c'est la Kabbalah que Shem et Ever ont reçue de génération en génération, enfin, à travers toutes les générations jusqu'à Adam Harishon. C'est ça qu'on apprenait là-bas. Et c'est ça qu'il a transmis à Yosef, qui lui n'était pas dans cette yeshiva. Mais il n'a pas transmis à ses autres fils parce qu'ils n'étaient pas intéressés. Il dit justement, c'est ça qu'il faut comprendre. Yaakov, il avait beaucoup de fils. Il avait des petits-enfants. Pourquoi il a enseigné qu'à Yosef? Ça, c'est comme ça qu'on fait le chinuch. Il faut trouver l'enfant qui est adéquat, qui veut recevoir, et tout lui donner. L'alter de Kelm, il avait dit, si j'avais un talmide, j'avais un élève, je lui aurais tout donné de ce que je sais. En fait, la Torah, elle se construit sur des individus. Il y a plein de gens qui étudient, mais la Torah, elle se construit vraiment sur des individus. On raconte que quand Rabbi Aaron Kotler est arrivé comme bachour à la yeshiva de Slobodka, le halter de Slobodka, qui était un grand connaisseur d'hommes, il a dit que ce Aaron Kotler, c'est toute la yeshiva. On lui a demandé, mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de 400 bachourim? Parce que lui, c'est... Il leur a dit, les 400 talmidim, les autres, là, c'est ceux qui vont donner la possibilité à Rabban Kotler de grandir plus. Lui, Ravolbe, il dit qu'un jour on m'a demandé si c'était vrai qu'Amir, en Pologne, en Russie, il y avait 400 Bahourim, ce qui était énorme pour l'époque. On voit que ce chiffre de 400, il revient, Slovodka aussi, c'était le top niveau, quoi. Il n'y avait jamais plus que ça. Et j'ai répondu que ce n'était pas ça la grandeur de Mir, le fait qu'il y ait 400 Bahourim. La grandeur de Mir, c'est qu'il y avait là-bas des Bahourim qui avaient étudié auprès de Rav Yerucham 15 ans. 15 ans ou 20 ans. C'est ça la grandeur de Mir. Les gens qui avaient été fabriqués par Rav Yerucham. Cette histoire de Ktonet Passim, cette tunique avec des rayures. Rashi dit que Passim, ça veut dire la chambre krimilat, ça veut dire de la soie. Il y a un midrash qui dit Al-Shem Tsarotav, Shenimkar le Potiphar, Socharim, le Ishmaelim, le Midianim. Et le midrash dit que Passim, c'est P, Samer, Yud, Mem, c'est là où il a été vendu, à P comme Potiphar, Samer comme Socharim, les marchands, Yud comme Ishmaelim, et Mem comme Midianim. Le Majgar, il dit, Ravolbe, il dit, bon, c'est pas une contradiction, c'est, elle était comme ça, c'était une tonnette passive. Et c'est bien de là que toutes les tsarot sont arrivées. C'est parce qu'il avait ostensiblement privilégié son fils Yosef, on ne comprend même pas comment c'est possible. On ne comprend pas, moi je dirais que c'est, disons, il me semble, c'est une erreur de chinour. C'est une erreur monumentale de chinour. Surtout sur un habit, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit au premier chef. Pourquoi Rashi ramène cette histoire, cette agada, le Pesamer Yudmem? Parce que chez Yaakov, il y a un klal. Chez Kolmashu, Amar, Oasa, Loaya, Larik. Que tout ce qu'il a fait, ce n'était pas pour rien. Quand il dit, celui chez qui on trouvera les trophim de Lavan, les pénates de Lavan, il mourra. Effectivement, Rachel. Bien qu'évidemment, Yaakov n'ait pas pensé à ça. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas réalisé, il ne l'a pas trouvé. Donc Rashi, il avait une question. Qu'est-ce que la Torah me raconte qu'il y avait des passim? Il savait rien faire, en quoi, s'il était en soie, s'il y avait des rayures. Bon, si on veut dire que ce qui était important, c'est qu'il lui a fait un vêtement spécifique, où on voyait très clairement que ça, c'est, ça vient de son père pour lui, et il est seul à porter un truc comme ça. Mais quelle importance ça, que ça soit en soie ou en, et qu'il s'agit des rayures ou pas. Et c'est pour ça que Rashi a expliqué à partir de cette Agada où il y a un remez de ce qui va arriver à Yosef suite à cette ktonette. Donc ça veut dire ça, Yaakov l'a vu Beruach HaKodesh, qu'il y avait quelque chose de temps. Alors évidemment, les frères, ils n'ont pas été aveugles. Vayiru Echav ki oto av aviyem mikol Echav. Ils ont bien vu, les frères de Yosef, que Yaakov le préférait à tous ses frères. וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. Ils l'ont haï et ils ne pouvaient même pas lui parler en paix. Ici arrive une sugya difficile. Parce que le problème, c'est jusqu'où va la Bechira, jusqu'où va le libre arbitre, où commence ici une Ashgaha. Une Ashgaha Eliona, une providence. C'est marqué Vaishnu Oto. Ils l'ont haï. Ce sont les Shifteka, c'est les Shvatim. Ce n'est pas Astam de la haine. Qu'est-ce que ça veut bien leur faire que Yaakov préfère Yosef? Il est ben zkunim, c'est l'enfant de sa vieillesse, c'est l'enfant de Rachel, c'est celui qui est intéressé à écouter ce que son père a à dire, et ils le sont moins. C'est marqué dans Chazal, dans le Midrash Rabbah. Là-dessus, ils disent Kesheratzita natata belibam lehov. Ou kshiratzita natata belibam lisno. Quand Hachem, ça va ça Hachem. Quand tu as voulu, tu as mis dans leur cœur d'aimer, et quand tu as voulu, tu as mis dans leur cœur de haïr. C'est-à-dire, le Midrash dit ici qu'on n'est plus dans le domaine du choix. On va voir plus bas que Rolbe va lire quasiment toute la paracha en dehors de la Bechira. C'est ce dont on a déjà parlé plusieurs fois, que quand Yaakov va envoyer Yosef prendre des nouvelles de ses frères, il l'envoie, le fameux, vous rappelez, Behemek Hebron, il l'envoie dans la vallée de Hebron. Et tout le monde fait remarquer depuis quand Hebron c'est une vallée, c'est une montagne. Alors qu'est-ce que ça veut dire Emek Hebron? Ça veut dire dans la profondeur de celui qui est enterré à Hebron, c'est-à-dire d'Abraham Avinu. C'est-à-dire, il s'agit ici du commencement de la réalisation de ce qui a été annoncé à Abraham Avinu, que tes enfants seront dans un pays étranger, ils vont être réduits en esclavage, ils vont souffrir, etc. Parce que la chose est incompréhensible. Yaakov sait que les frères le haïssent, et il l'envoie prendre des nouvelles. Il l'envoie au casse-pipe. Et c'est ce qui arrive. Quand il arrive, il lâche les chiens sur lui. Et les chiens n'ont pas mangé. Ils l'ont jugé, ils l'ont condamné à mort. Et comment Yaakov, il a pu l'envoyer là-bas? Mais on voit très bien que ça, c'est plus Yaakov qui agit ici. Yaakov, il est une marionnette dans la Hashgacha ici. Il y a une Hashgacha Eliona. C'est Hachem qui a repris la main là. Et ça ne dépend plus des actions des hommes. Alors ici, ça commence déjà. La Sina. Cette haine. Vaïsnu oto ve lo yachlu dabro le shalom. Lo yachlu dabro le shalom. Ça vient vaïsnu oto. C'est-à-dire, la Torah définit qu'est-ce que c'est la sina. Qu'est-ce que c'est la haine. Et c'est ça le din. Si quelqu'un ne peut plus parler avec l'autre, tellement il le hait, durant 3 jours, c'est de la sina. Gamkan, sinata mitbata beze shelo yachlu dabro le shalom. Ici aussi, leur haine s'est exprimée par le fait qu'ils ne pouvaient pas lui parler le shalom. Si quelqu'un il a de la haine à l'égard de l'autre, Chayav le odia lo shiyesh lo na'alav. Il doit lui dire, j'ai des choses à te reprocher. C'est seulement après il aura le droit de le haïr. Seulement s'il avertit l'autre, alors l'autre peut arranger les choses. Il peut se défendre éventuellement. Ou bien il se défendra en disant qu'il n'était pas au courant, etc. Ou bien il dira que, voilà, je vais arranger les choses. La pire chose, c'est de ne pas parler. On voit chez Rachel, elle a dit à Yaakov, Aveli banim vim ain meta anochi. Elle lui a parlé très durement, elle lui dit, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Elle a parlé. Des fois, les parents s'imaginent punir leurs enfants en ne leur parlant pas. Raconte une histoire. Il y avait un enfant. Les parents ont voulu punir. Ils ont décidé qu'il ne lui parlait plus. Et cet enfant, il n'a pas compris qu'il avait fait quelque chose de mal. Il est venu chez sa mère et il lui a dit, « Maman, est-ce que je peux sortir ?» Sa mère ne lui a pas répondu. Il a répété, Ima, maman, est-ce que je peux sortir? Toujours pas de réponse. Alors l'enfant est allé et il a amené un bâton. Et il a dit à sa mère, bats-moi avec ça, mais parle-moi. On voit combien un enfant souffre quand on ne lui parle pas. Vayachalom Yosef Chalom, Yosef rêve, et il l'a raconté à ses frères. Yosifu Odz Noto. Ils l'ont encore plus haï pour cela. Les Chalomot des Gdolim, les rêves des Gdolim, c'est pas comme nos rêves à nous. Leurs rêves ont toujours un sens. Nous, on rêve sur ce à quoi on a pensé pendant la journée. Donc le rêve, il n'a pas de véritable importance. Mais leurs rêves à eux, ou plutôt en tout cas ceux qu'on nous rapporte venant d'eux, les concernant, c'est comme toute la journée ils étaient occupés de Torah, toutes leurs pensées sont des pensées pures, leurs rêves ont un véritable sens. On raconte que à la yeshiva de Jeb, il y a eu une marloquette, et au bout de quelques jours, elle est arrivée à son sommet, et ils en sont presque venus aux mains, dans le Beit HaMidrash. Et à la dernière seconde, dernière minute, le Rav Etzraïm est arrivé avec son gendre, pour calmer les esprits, a clarifié les arguments des uns et des autres. Il n'habitait pas à l'objet, il était à Radin. On lui a demandé, mais d'où tu sais qu'il y a une marloquette à l'objet? D'où tu savais? Wetzheim, il n'était pas sur Facebook, donc il ne pouvait pas être au courant. Il a dit que son gendre, qui était un grand bonhomme, il a rêvé qu'il y avait le feu à l'objet. Le professeur Wetzheim a compris qu'il s'est passé quelque chose dans la yeshiva. Immédiatement, il s'est mis en marche, s'il est en voiture ou en train, avec son gendre. Avtzalok HaKohen, il a écrit « Kuntras d'Ivrei Chalomot ». Il a écrit un petit livre qui s'appelle « Kuntras de paroles de rêve ». Et dedans, dans ce petit livre, il y a des chidushim concernant tout le chasse. Le Rav Tzadok HaKohen, c'est quelqu'un qui révisait le chasse tous les 30 jours. Alors, c'est quelqu'un qui faisait le chasse en 30 jours et révisait tous les 30 jours. Comme le Gaon. Et il a, dans ce livre, les chidushim sur tout le chasse, c'est les chidushim qu'il a rêvé, qu'il a fait pendant qu'il dormait. On dit un peu la même chose du Gaon de Vilna. Eux, ils disaient que le sommeil n'est là que pour que certaines gens puissent atteindre à des niveaux auxquels, en état de veille, on ne peut pas accéder. Et Chazal disent ça, ils ont dit ça dans la Gemara, dans Brachot. Kol alan shivat yamim belo chalom nikara. Celui qui est couché pendant 7 jours consécutifs et il n'a aucun rêve, il est appelé Ra. Le problème, c'est qu'on oublie les rêves. On a rêvé, mais on a oublié. Nos chalamot, ils n'ont rien à voir avec ça. Et pourquoi? C'est parce que si quelqu'un est tellement enfoncé dans le matériel, alors la spiritualité, elle ne peut pas s'exprimer chez lui durant son sommeil. Razonich a dit que ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est « Yesh chalomot shetzerech latzum aleihem ». Le Shulchan Aruch, il dit qu'il y a des chalomot sur lesquels il faut jeûner. « Ze amur rak al adam gadol », c'est seulement pour un adam gadol. Le chalomot shelanu, c'est shtuyot. Le chalomot à nous, c'est les bêtises. C'est ce que dit Razonich. Les chalomot de Yosef, on sait que c'était la prophétie, en fait. Mais les frères ont pensé que ces chalomot, c'est le dévoilement, ça vient dévoiler ce à quoi ils pensent durant toute la journée. Et que ce n'était pas la nevoie. Et quand dans son rêve, il fait des rêves de royauté, ben eux, ils ont compris, ils ont interprété en disant, ben c'est parce qu'ils pensent toute la journée à quand est-ce qu'il va pouvoir nous dominer et être roi sur nous.